ça m'oppresse beaucoup la masculinité en ce moment.
Oui, je peux comprendre qu'en ce moment, les hommes qui se sentent un peu pris entre le marteau et l'enclume de la, du virilisme et comment dire, le mâle performatif.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions qui flottent dans l'air du temps, mais qu'on a parfois du mal à saisir, tel un papillon malicieux ou un d'où ça sort écrit à la va-vite. Aujourd'hui, comme un hommage au retour de notre rédacteur en chef justement, on va zoomer sur un thème que jusqu'à preuve du contraire, il tient pour une légende urbaine, la crise de la masculinité. Alors, la crise de la cinquantaine, oui, il voit. Comment expliquer sinon cette envie soudaine de se faire percer l'oreille pour y accueillir une boucle d'oreille guitare électrique siglée Bono Rocks. En revanche, la crise de la masculinité, quand il file sur son puissant deux roues, empruntant les voies de bus au nez à la barre de la maréchaussée, qui même lorsqu'elle le prend en flag, renonce à le verbaliser tellement il en impose avec sa grosse cylindrée et sa grosse beubare façon Hells Angels, lui qui, contrairement aux autres usagers de la route, n'a pas une seconde à perdre car il a rendez-vous avec Louis Sarkozy pour l'épisode 1 de son podcast Entre côtes, entre couilles. Vraiment, non, la crise de la masculinité y voit pas. Nous avait-il lancé en conférence de rédaction, non sans postillonner des restes de pâté en croûte au mori dans un rayon de 6 km. Et pourtant, elle existe, cette crise de la masculinité, du moins, beaucoup d'hommes s'en font l'écho, des hommes qui souvent se sentent débordés par l'émancipation féminine et la remise en cause de la traditionnelle répartition des rôles hommes-femmes, traditionnelle c'est-à-dire patriarcale, mal à l'aise aussi par rapport au nouveau modèle masculin, plus fragile, plus androgyne, qu'à l'époque de John Wayne, on pense évidemment à Timothée Chalamet, on pense à Harry Styles. Alors, pendant que Cyril se bouche les oreilles avec du persil et surtout pas de la coriandre, je propose qu'on regarde le sujet droit dans les yeux. Zoom Zoom Zen spécial crise de la masculinité. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Aurélia Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Aurélia, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de genre et des enjeux féministes. Vous avez écrit dans Cosette et vous avez publié 2 livres. Tu seras un homme féministe, mon fils, c'était en 2018, et Tu seras une mère féministe en 2022 aux éditions Marabout. Et si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre bande dessinée Éduquons nos fils, coécrit avec Maëline et illustré par Anjuna Boutan. C'est paru aux éditions Marabout, une BD dans laquelle vous parlez de l'importance de transmettre des valeurs égalitaires à nos enfants, en particulier donc aux garçons. Vous allez nous expliquer comment. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, 2 membres de la Gen Y, donc un peu plus à même que Cyril de comprendre ces problématiques de genre qui, je cite Cyril, lui file la migraine. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
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 Bonjour à tous. La Gen Y, ça
se dit. Oui, vous êtes la Gen Y.
Oui, c'est
vrai. Vous voulez dire qu'il faut être, soi-même.
On disait
un
génération Y.
Pour dire la Gen Y, très bien. À vos côtés, Aurélia, vu le souvenir qu'elle a laissé aux filles du lycée Saint-Pierre-Fourier dans le 12e arrondissement de Paris, ex-camarades dont certaines sont encore en thérapie 15 ans après, on peut difficilement la présenter comme l'inventrice de la sororité, même si vous verrez qu'elle ne manquera pas de se targuer d'être féministe quand elle vous posera la question, car c'est avant tout une actrice. Manon, bien sûr, le cours Florent. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Oui, changeons de sujet. Une chanson. Elle interroge sur les codes de la virilité avec un père qui parle à son fils. Spoiler, elle est signée l'un des nombreux némésis de Cyril Lacarrière.
Ah oui, ah ça y est, je viens de comprendre. Oui. Non, lundi, c'est
un
bien.
Bon album, c'est bien déjà.
Oh,
il est mauvais.
On l'embrasse.
Face à vous, Aurélia, voilà peut-être le seul homme de cette équipe qui vit pleinement avec son temps. En effet, il y a encore une vingtaine d'années, aucun homme ne se serait ouvertement vanté de s'être fait aspirer le dard par un ami. Or, Quentin nous a raconté cette anecdote avec beaucoup de simplicité. Le frelon m'avait piqué, il était énorme, Polo était là, il m'a sucé. Des mots qui bourdonnent, si j'ose dire, aux oreilles de Cyril, qui même piqué par un cobra royal n'aurait jamais fait appel à un ami pour lui aspirer le dard.
Non, il m'a ôté le venin.
Oui, mais vous, c'est, comme ça,
bouche,
c'est dans
oui.
ces termes que vous nous l'avez décrit.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai, c'est une vraie histoire.
Il l'a
craché
quand même.
Il l'a craché dans le verre d'un pote.
Bah oui,
vous êtes vraiment déconstruit.
Bah, sinon,
chaque matin, vous partez en tout cas à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème du jour. Alors, est-ce que la crise de la masculinité, ça les a inspirés?
C'est marrant de voir qu'on tombe un peu d'accord sur le fait que les hommes sont un peu paumés dans l'image qu'ils sont censés renvoyer à la société, mascu ou déconstruit, souvent un peu entre les deux. On part dans la rue en discuter dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, afin de redonner le sourire à Cyril, nous partirons à la découverte de ces femmes qui sont d'accord avec lui. De Fanny Ardant à Catherine Deneuve, en passant par Sarah Palin, elles aiment que les hommes soient forts, dominateurs, et que les femmes restent à leur place. Le Zoom Zoom Test sera consacré aux pires citations antiféministes qu'on doit à des femmes.
Que les
Juste avant 17h, nous fêterons le retour de celle qui contribue à cette crise de la masculinité en nous dépeignant son mari aux toilettes dans une chronique sur deux. Marine Leonardi est de retour retour. Après 17h, restez avec nous, on partira à New York où la course à la mairie fait rage. On zoomera sur le grand espoir du camp démocrate, Zoran Mamdani, le cauchemar de Donald Trump. Mais d'abord, Aurélia Blanc, on va parler donc de cette crise de la masculinité. On va parler aussi évidemment de déconstruction. Déjà, comment vous comprenez ce terme de crise de la masculinité?
Bah en fait, il est très flou. C'est un mot valise. Ce dont on peut être certain, c'est que quand on parle de crise de la masculinité, c'est rarement défini, mais c'est toujours un peu la faute des femmes, qui ont pris trop de place, qui ont eu trop de revendications, trop d'avancées. Donc, on ne sait pas très bien, en fait, ce que ça recouvre, mais on sait que c'est la faute des femmes.
C'est une accusation portée contre les femmes.
Contre les femmes, et particulièrement contre les femmes qui auraient des velléités féministes.
Comme j'ai honte du portrait que j'ai fait de lui à l'instant, lui qui est l'homme déconstruit dans toute sa splendeur, car Cyril Lacaire n'est plus ce viandard barbu qui jadis sillonnait les rues de Paris sur une moto anglaise de grosse cylindrée. Désormais, le dimanche, il ne va plus casser du gauchiste avec ses copains des Hells Angels de Ponto Combo. Maintenant, le dimanche, il fait des crêpes. Et le lundi, il les apporte à ses collègues dans un mignon petit Tupperware. Comble du raffinement, il a même fait son caramel au beurre salé maison. Tu vas voir, il est un peu raté, mais il est bon quand même, nous disait-il. J'avais envie de le croquer tellement il était mime.
De
vous, oui, vous êtes mignon.
Me croquer, moi.
Oui, oh, bah, c'est symbolique.
Qu'est-ce que vous racontez, Mathieu Noël. Ne dévoilez pas toute notre intimité.
Bon, les crêpes étaient très bonnes.
Oui, tout était très bon.
Merci.
Cousine.
Vous qui êtes visiblement en plein dedans, racontez-nous la crise de la masculinité, d'où ça sort.
Eh bien, imaginez, vous entendez dire que les hommes sont trop virils, et puis finalement pas assez, qu'ils sont trop durs, puis trop doux. On parle d'hommes perdus, de masculinité toxique, de mal déconstruit. Il y a Brad Pitt en jupe, Stromae qui chante ses angoisses, et des TikTokers qui pleurent face caméra. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier et il semble que ça en rende certains nerveux. Depuis un siècle en fait, la masculinité serait en crise, c'est en tout cas ce qu'on nous répète à chaque génération. Déjà au 19e siècle, après la révolution industrielle, on déplore l'affaiblissement des hommes modernes au prétexte que les hommes seraient désormais enfermés dans des bureaux, donc loin de la réalité du quotidien. Dans les années 70, en réaction à la montée en puissance du mouvement féministe, on voit apparaître le Men's Movement, un mouvement masculin tiraillé entre deux extrêmes. D'un côté, les hommes féministes qui veulent redéfinir leur rapport aux émotions, leur rôle en tant que père et afficher leur vulnérabilité. Et puis les anti-féministes qui dénoncent la castration de l'homme moderne.
Mais c'est encore 20 ans plus tard que la notion de crise de masculinité est popularisée.
Oui, dans les années 90, grâce au sociologue américain Michael Kimmel qui parle de masculinity crisis. À travers cette notion, il veut parler du malaise des hommes face à l'émancipation féminine et à la remise en cause des rôles traditionnels. Une crise qui devient virale dans les années 2010. Sur YouTube, des influenceurs prônent le masculinisme, le red pill ou la séduction virile, pendant que d'autres, comme Harry Styles ou Timothée Chalamet, incarnent une nouvelle masculinité fluide et qui brouille les codes. Alors d'où ça sort la crise de la masculinité? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Aurélia Blanc, quand on parle
Timothée
de...
Timothée Chalamet.
Oui, c'est...
Ah, Timothée.
Chalamet.
Voilà.
Génie.
Chalamet.
Ah, Chalamet.
N'allez pas nous le mettre bougon.
On l'embrasse. Oh,
qu'est-ce Timothée. Que c'est que... Moi, j'ai très bien compris, Cyril, ce que vous disiez.
Merci, oh. Mathieu.
Aurélia Blanc, quand on parle de masculinité, on devrait peut-être aujourd'hui parler tout simplement des masculinités. C'est ce pluriel, peut-être, qui gêne certains hommes qui ne savent plus trop se situer, mais finalement, ils n'ont qu'à choisir. C'est juste qu'il y a différents modèles d'hommes qu'on nous propose aujourd'hui, tout simplement.
Oui, absolument. Il n'y a pas une seule et même matrice, en fait. Les hommes sont divers. J'en viens à dire des choses assez basiques.
Oui, mais ce n'était pas le cas avant, en fait. À une époque, un homme devait être viril, costaud, etc. Peut-être
oui,
que...
mais il y a toujours eu des hommes qui venaient remettre en question les normes de genre de leur époque. Et d'ailleurs, cette crise de la masculinité, ce terme, il remonte même à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'Aristote, à son époque, se plaignait déjà qu'il y avait une crise de la masculinité, une féminisation de la société, dans une société où les femmes n'avaient pas de droits civiques.
Mais est-ce que ce qui change aujourd'hui, c'est comme l'a dit Cyril, que maintenant c'est mis en avant aussi par des stars, entre guillemets, donc on parlait d'Harry Styles, mais il y a aussi Pedro Pascal, on pourrait en citer d'autres. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a ces nouvelles représentations masculines, on en parle autant aujourd'hui?
Oui, bah en fait, cette visibilité-là, ces hommes comme Harry Styles, par exemple, ou Timothée Chalamet, ils représentent des nouveaux rôles modèles, ils osent incarner un modèle différent, et en fait, c'est ça qui dérange les franges les plus conservatrices ou réactionnaires, parce qu'il y a une haine, en fait, que des hommes puissent être différents d'eux, et surtout une peur que ça se développe et que ça vienne contaminer, entre guillemets, l'ensemble de la société qui se retrouverait totalement féminisée. C'est ça, en fait, la crainte.
On a fait une émission, il y a quelques temps, sur les soy boys, les garçons soja, des hommes jugés trop frêles par les masculinistes. Est-ce que l'apparence physique de ces hommes qui refusent les stéréotypes virilistes est un acte politique en soi ?
Oui et non. À la base, c'est avant tout un acte intime, ça peut être un choix esthétique, personnel, mais de fait, assumer ce choix dans l'espace public, ça prend de facto une dimension politique. Donc, on ne le fait pas forcément pour des raisons politiques, mais ça le devient par rapport au débat qui traverse la société aujourd'hui.
On va revenir sur l'antagonisme homme-femme, mais est-ce que au sein des hommes, il n'y a pas déjà une crispation du débat ou une haine entre les hommes, les masculins justement, qu'on voit émerger sur les réseaux, et ceux qui s'en foutent de tout ça, de cette image viriliste et qui veulent être déconstruits, enfin, tout simplement s'habiller ou se représenter différemment.
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit dans tout un tas d'études assez récentes, il y a quand même une vraie polarisation au sein, parmi les hommes eux-mêmes, entre des franges d'hommes plus progressistes, qui ne sont pas nécessairement très déconstruits ou très performatifs sur les questions de genre, mais qui n'ont pas de problème à ce que d'autres le soient, et de l'autre côté du spectre, des hommes qui vont vraiment être dans des dynamiques parfois assez puissantes de harcèlement, de condamnation, parce qu'ils sont gênés que d'autres ne suivent pas leur pas.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
L'homme moderne est-il vraiment si paumé que ça? La journaliste Aurélia Blanc, co-autrice de la BD et du Con Nos Fils, est avec nous pour parler cet après-midi de la crise de la masculinité. Aurélia, vous l'expliquez dans votre BD, pourquoi c'est très important d'être déconstruit?
Bah parce que sinon les choses ne changent pas, en fait. Être déconstruit, c'est pas une étiquette ou un diplôme, c'est une sorte de processus par lequel on va prendre conscience déjà des dynamiques genrées, où on va peut-être avoir conscience des rapports de domination aussi, puisque en fait c'est de ça dont on parle. Et puis surtout, peut-être, si on est vraiment au high level de la déconstruction, oui, on va essayer d'agir pour changer les choses. Donc c'est en ça que c'est important, pas vraiment pour faire joli.
Je pense parce qu'à une génération d'hommes, moi je sais que mon père nous écoute par exemple, il a plus de 60 ans, se déconstruire, c'est d'abord se remettre en question. Est-ce qu'on peut le traduire comme ça pour commencer?
Oui, et c'est pour ça que c'est très compliqué et que ça peut être douloureux aussi et que ça peut susciter une sorte de levée de bouclier parce que ça oblige finalement à s'interroger sur ses propres actes, y compris dans, et surtout même, j'ai envie de dire, dans la dimension la plus intime de sa vie. Qu'est-ce que je fais à la maison? Comment je me comporte avec ma conjointe, mes enfants? Et c'est en ça que c'est compliqué. C'est pas non plus, ça se fait pas d'un claquement de doigts.
Est-ce qu'un homme aujourd'hui peut se dire féministe? Est-ce qu'il faut qu'il rentre justement dans les luttes féministes telles qu'on les connaît aujourd'hui?
Alors ça, c'est toujours un grand débat au sein même des mouvements féministes, oui, et il n'y a pas une réponse tranchée. Pour certaines militantes, c'est inconcevable qu'un homme se dise féministe. Pour d'autres, ça n'est pas inconcevable. Il me semble que ce qui est important, c'est pas tant qu'un homme se proclame féministe quelque part, ou pro-féministe, ou allié, enfin peu importe l'étiquette. Ce qui compte, évidemment, c'est ce qu'il va faire ou ne pas faire au quotidien. Et c'est là où ça devient intéressant.
Mais vis-à-vis des enfants, il faut que ce soit les parents qui soient déjà déconstruits. Parce que l'enfant, lui, il n'est pas construit encore.
Bien sûr.
Donc il faut lui inculquer des bases qui sont différentes de celles qu'on nous a inculquées avant.
Ouais, et prendre conscience aussi de tout un tas de mécanismes de reproduction genrée, parce qu'en fait, tous autant qu'on est, on a souvent l'impression que nous, on n'est pas sexistes, ça va, c'est plutôt chez les autres que ça déconne. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est pas seulement les affreux sexistes qui vont reproduire des dynamiques genrées ou sexistes, c'est un peu chacun d'entre nous.
Pardon, je rebondis là-dessus, parce que ça me paraît vraiment très intéressant de bien le décortiquer. Ce qui est intéressant de dire, c'est ça sert à rien de dire, je suis pour l'égalité homme-femme, je m'en fous, de toute façon, on ne peut pas me taxer d'être machiste ou quoi que ce soit, puisque moi, je mets tout le monde sur un pied d'égalité. Ça ne suffit pas, en fait.
Il faut voir
les dynamiques sociales beaucoup plus larges que nous, qui nous dépassent et qui influent sur tout le monde, tout un chacun.
Exactement. Et je dirais qu'à choisir, c'est peut-être plus intéressant d'être face à un homme qui se dit bah, « Non, moi, je ne suis pas vraiment féministe, je ne connais pas très bien », mais qui, dans les actes, va, je ne sais pas, par exemple, dans le cadre de la parentalité, va adapter son temps de travail, aller chercher ses enfants à l'école, poser les jours enfants malades, plutôt que d'avoir affaire à un homme qui va dire « Ah oui, l'égalité, évidemment, on est tous pour », mais qui, derrière, n'en fait pas le dixième.
Il y a un âge limite? Jusqu'à quel âge on peut se déconstruire?
Attention.
Je crois qu'il n'y a pas d'âge limite. Chaque sursaut est le bienvenu, aussi tardif soit-il.
Les nouveaux pères, qui sont les nouveaux pères? Il y a beaucoup souvent dans le micro-trottoir de Quentin, on entend des hommes assez fiers d'être des nouveaux papas qui vont chercher des enfants à l'école.
On avait fait une émission.
Et souvent, ça provoque l'agacement de nos invités féministes.
Les nouveaux pères, c'est pas aussi vieux comme expression que la crise de la masculinité, mais c'est quand même un serpent de mer, parce que ça fait depuis les années 70-80 qu'on parle des nouveaux pères, qu'on les célèbre. Alors c'est intéressant, là il y a une grande étude sociologique, enfin une compilation de travaux sociologiques sur le sujet qui s'appelle Père féministe, mission impossible, point d'interrogation. Et ce qu'on y apprend, et ce qui vient conforter les 40 ans d'études qu'on a sur le sujet derrière, c'est que, en fait, aujourd'hui, être un père féministe, un nouveau père, c'est un idéal quand même qui est partagé par à peu près l'ensemble des pères, même les moins progressistes d'entre eux. Donc ça, c'est intéressant. Pères d'aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, dans les pratiques, les changements se font plutôt à la marge et on a encore un écart très important dans l'investissement quotidien des pères et des mères.
Et pardonnez-moi, moi je pense toujours à l'auditeur d'Europe 1 qui tombe sur France Inter par hasard. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui craignent qu'a donné ce modèle d'homme déconstruit, pas viriliste pour un sou, qui brouille ces codes-là? Est-ce qu'on risque pas d'avoir une féminisation de la société? Quel est l'argument sociologique qu'on peut donner ou, je sais pas, expliquer qu'il va rien se passer, que tout va bien se passer en fait?
Alors, basiquement, je serais tentée de dire que dans la mesure où on change pas les couches de nos enfants avec nos organes génitaux, je vois pas très très bien à quel moment on va féminiser ça. Peut-être que la seule chose qu'on risque, c'est que nos enfants, effectivement, grandissent en se disant que les hommes et les femmes ont des places qui peuvent être égales, semblables et parfois même interchangeable. Et sans doute que c'est ça qui fait peur, parce que si les places, elles sont interchangeables, ça veut dire que certains risquent de perdre la leur.
Et vous, est-ce que vous la ressentez, cette crise de la masculinité? À mon avis, ce matin, retour de vacances pour beaucoup d'entre vous, vous rêviez que Quentin vous arrête dans la rue pour vous poser la question.
Vous n'allez pas être déçus, je suis du côté de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. La gare de Lyon qui, à part son magnifique beffroi qui affiche 10h30, est entièrement recouverte d'échafaudages qui donnent l'impression que chaque voyageur sort d'un immense chantier. Et c'est ici que je croise la route de cette femme qui sourit un peu en découvrant notre thème du jour.
La crise de la masculinité, bah ouais les pauvres, c'est chaud.
Je lui parle de notre choix de faire cette émission sur les injonctions contradictoires de l'époque. Est-ce qu'elle voit quand même de quoi je parle?
Oui, je peux comprendre qu'en ce moment, les hommes qui se sentent un peu pris entre le marteau et l'enclume du virilisme et comment dire, le mâle performatif, c'est-à-dire tote bag, thé matcha... voilà, je peux imaginer, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
On a un peu le cul entre deux chaises. Je vous présente maintenant Jackie, 64 ans dans quelques jours, tailleur bleu impeccable, chignon et boucle d'oreille dorée.
La crise de la masculinité, je ne saurais vous dire.
On dit que les hommes sont un peu paumés en ce moment entre...
Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Pas paumés, mais en fait on est chiante. Ben ouais, parce que on veut que ce soit... un mec, un vrai mec. On a besoin d'être assuré, mais on veut pas le montrer. On ne veut plus montrer qu'on a besoin des mecs.
Bon, mais alors voilà, les hommes aussi peuvent avoir besoin d'être assurés. C'est d'ailleurs le thème, c'est aussi ça notre thème du jour.
Et c'est très réconfortant pour une femme de réconforter son mec quand lui n'est pas bien.
Donc c'est bien d'arriver à un homme qui pleure, par exemple.
Mais effectivement, mon mari, il n'est pas bien, bah, il pleure. Hein. Et alors, viens, on fait un câlin, et pourquoi pas? C'est pas pour ça que ça lui retire ses 125 kilos et 1m93. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois très bien. Je lui demande si l'époque...
Vous avez croisé ma femme dans l'émission de votre soir. Merci de ne pas interroger les proches, Quentin.
Jackie, c'est votre femme? Je lui demande si l'époque ne fait pas s'affronter ce que certains voient comme du progrès et ce que d'autres qualifient de castration dans la drague, par exemple.
Elles sont pas mécontentes de se faire draguer, arrêter de prendre les gens pour des cons. Les mecs ont peur de tout maintenant, parce que on va faire harcèlement, parce que je sais pas, pour en revenir à le fils de qui a mis une main au cul dans une boîte à une nana.
Ah, Nicolas Bedos.
Absolument. Mais combien de fois je me suis fait mettre la main au cul? Va pas en boîte si tu veux pas te faire mettre la main au cul.
Le problème vient peut-être de mettre la main au cul quand même. On peut peut-être, ça peut faire partie de l'homme qui change.
Après, il y a main au cul et main au cul.
Voilà, pour Jackie, il y a main au cul et main au cul. Précisons quand même que pour Nicolas Bedos, c'est une main posée sur le sexe d'une jeune femme à travers son jean et qu'il a été condamné pour agression sexuelle. Une peine pour laquelle il a décidé de ne pas faire appel. Je traverse la route maintenant et je sors d'un... Enfin, pas moi je sors, mais sors d'un véhicule utilitaire gris, oui. Ce jeune homme. En pleine force de l'âge, nous discutons, je lui parle d'homme déconstruit.
Un homme déconstruit?
Vous avez déjà entendu parler de ça?
Non, franchement non.
C'est quoi un homme?
Un homme?
Pour toi?
Pour moi, un homme, quelqu'un qui travaille déjà, qui essaye de mettre bien sa famille, quelqu'un de fort.
Alors je lui dis que justement, c'est peut-être ces injonctions qu'il faut casser. Il tient à me rassurer.
Mais après, oui, je n'ai rien contre ces personnes-là qui veulent se démasculiner, je sais pas si ça se dit.
À quoi ça ressemble pour toi un homme déconstruit?
Bah déjà, quand tu le vois dans la démarche...
Et c'est bien.
Bah il marche comme une fille, quoi. tout ce qui est dans les manières, dans la gestuelle, dans la voix.
Mais attends, on parle bien d'hommes déconstruits, pas d'hommes homosexuels.
Bah c'est ce que tu m'as dit, non ?
Ah bah c'est pas pareil.
Ah moi je croyais que tu me parlais d'homosexuel.
Bah non.
Ça, je sais pas moi, tu m'as dit qu'il perd de sa virilité, etc.
Il y a encore du chemin. Sortons de notre bulle de bobo parisien, dirait notre rédacteur en chef. Ma dernière rencontre, c'est Marie, les cheveux ébouriffés par le vent. Elle souffle justement en voyant le thème du jour. À quoi elle voit que l'époque n'est pas simple pour certains hommes pris dans ces injonctions contradictoires de la société ?
Moi je le vois dans... quand on est entre meufs et on a un pote mec qui est à la table, il n'y a pas de souci pour se livrer, les discussions sont hyper constructives. Par contre, quand j'observe ce même pote, mais avec d'autres copains garçons, les conversations tournent vachement en rond, enfin, c'est pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés, etc. Du coup, c'est un peu dommage. Il y en a avec qui j'arrive à en parler, qui sont d'accord avec la chose, mais qui n'arrivent pas à casser ce truc-là entre potes.
Et ce truc-là, c'est l'effet Boys Club. Mmh. Ça, c'est un vrai sujet. Un homme qui se dit déconstruit, entouré de femmes, peut d'un coup se transformer en un joueur de rugby de troisième mi-temps dès qu'il retrouve deux potes et son mec à elle.
C'est un homme en voie de déconstruction. Je sais pas, bah, tu vois, genre, quand on parle de cul, par exemple, genre le rapport à la pénétration, tu vois, je sais rien, genre, tu vois, il comprend et tout, il se renseigne un peu, donc on en parle et tout, machin, mais il n'arrive pas à...
Ouais, il n'arrive pas toujours à tout déconstruire, tout le monde voit, je pense, de quoi on parle. Avant de la quitter, je lui demande ce qu'elle attend d'un homme aujourd'hui.
Je sais pas, faire l'effort d'être entier et d'assumer ce qu'on pense et ce qu'on peut ressentir, porter le moins possible le masque, enfin... Je pense qu'on le voit, on a cette capacité en tant que femme genre à percevoir ce filtre-là qu'un mec peut se mettre.
Et si le vrai truc aujourd'hui, c'était simplement d'oser d'être soi, sans rôle, sans posture, sans costume social, sans filtre. Autrement dit, les gars, bas les masques.
Merci Quentin. Aurélia Blanc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette image du masque que les hommes se mettent ? L'homme porte un masque toute sa vie ?
Ouais, je suis assez d'accord avec ça et il y a quand même là aussi pas mal de travaux et ce masque-là en fait il commence très tôt puisque très tôt on dit aux petits garçons pleure pas, sois fort, t'es pas une gonzesse, etc. Donc on intériorise assez vite en tant que petit garçon qu'il faut avoir un masque et ça a des répercussions aussi après sur la santé mentale des hommes, c'est-à-dire que les détracteurs de la crise de la masculinité n'évoquent jamais aussi tout le coût pour les hommes des injonctions à la virilité et le fait de porter ce masque. Ça a des effets assez lourds en termes de santé mentale.
Il y a une chose qu'elle décrit, Marie, c'est que l'effet Boys Club. C'est-à-dire qu'elle a des potes qui sont complètement, je pense, qui ne se disent pas forcément déconstruits, mais qu'elle trouve déconstruits autour de la table avec des femmes. Et puis, une fois que ce même mec est autour d'une table qu'avec des hommes, là, il redevient un peu ce qu'on attendait de lui à une certaine époque. Ça peut être un truc à faire pour un homme, dans un groupe d'hommes, de dire bah, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on retombe là-dedans, les gars.
Bah, c'est carrément un truc à faire, c'est même essentiel et en même temps je pense que c'est le niveau le plus difficile à atteindre dans ce fameux processus de déconstruction. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment besoin d'avoir des hommes qui osent en fait dire à leurs potes, à leurs collègues quand en
quitte
fait
à,
il est
quitte
passé
à casser
dans,
l'ambiance.
Quitte à voilà, casser l'ambiance et à devenir eux aussi les casseurs d'ambiance. Et ça, on voit bien que c'est quand même l'étape sans doute la plus difficile à franchir aussi parce que ça vient remettre en question peut-être ses amitiés, ses relations sociales et que donc peu quand même sont prêts à prendre le risque.
Ouais, mais justement, est-ce que c'est aussi à nous, les femmes, d'éduquer les hommes à se déconstruire ou ce n'est pas un dossier, c'est un dossier en plus dans notre charge mentale qu'on n'a pas envie de se mettre ? Je sais où je me place.
J'ai envie de dire réponse B. Ouais. On a déjà pas mal de dossiers à traiter. Après, qu'on le veuille ou non, on le fait déjà, en fait, ce travail d'éducation, puisque les hommes qui se déconstruisent, ils s'appuient quand même sur un tas de travaux, d'analyses, de mobilisations féministes portées par des femmes qui travaillent sur ces questions. Donc, ça sort pas de nulle part.
Un couple, peut-être, l'un peut un peu déconstruire l'autre. Enfin, l'une.
Bah, c'est souvent ce qui se passe. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes le disent. Ah, j'ai fait écouter tel podcast à mon conjoint, j'ai mis cette BD sur la table de nuit, je vais l'emmener voir tel spectacle, on parle de ci, de ça, donc ça c'est très bien, mais ça suffit pas, et si vraiment un homme a envie d'être déconstruit, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il se dise, ok, là maintenant c'est à moi de faire ma part du boulot. Quoi.
Qu'est-ce qu'on répond à Jackie ? Parce qu'on a rigolé là autour de la table, mais Mathieu dit, vous avez interviewé ma femme, mais je pense qu'elle parle à des gens quand elle...
Absolument.
On va pas se couper du dialogue, qu'est-ce qu'on répond à ce genre d'argument ?
Il me semble que Jackie, elle mélange plusieurs choses, parce que par exemple, elle est d'accord avec le fait que les hommes sont perdus, notamment sur cette question de la drague. sujet majeur s'il en est, sauf que ce qu'elle dépeint, c'est pas de la drague, c'est des mains aux fesses en fait, c'est des agressions sexuelles, et c'est là où en fait il y a un glissement entre cette idée de on peut plus rien faire, on peut plus draguer les meufs, mais en même temps venir leur coller des mains aux fesses, c'est pas les draguer. Donc quelque part la question elle se pose pas en ces termes, mais sans doute que Jackie appartient à une génération où effectivement si on voulait aller en boîte, il fallait accepter de se prendre des mains aux fesses, et les petites filles de Jackie disent sans doute nous on en a marre.
France Inter. Zoom zoom zen.
Ah, ma feuille du quiz. On parle en antenne, on raconte tout et n'importe quoi. À la veille de cette émission sur la crise de la masculinité, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, a mal dormi. Plusieurs fois, il s'est réveillé en sueur. Son tatouage Not All Men le démangeait. Plusieurs fois, il s'est même levé pour aller vérifier dans le salon que sa femme n'avait pas jeté à la poubelle sa précieuse trancheuse à jambon, comme dans ce cauchemar affreux qu'il venait de faire. Au petit matin, alors qu'il émergeait d'un énième rêve où les fémènes l'obligeaient à manger du petit épeautre, Cyril ressentit l'impérieux besoin d'aller déverser son fiel d'homme incompris sur Un seul rire rémoulade, le forum des mascus qui aiment les buffets de hors d'œuvre. Cyril, je comprends ton tourment, mais sache que tu n'es pas seul, car les femmes aussi, parfois, ne sont pas tendres avec leurs congénères. C'est de ces drôles de dames, aussi inquiètes que Cyril pour la crise de la masculinité, aussi peu dans la sororité que Manon...
En vrai, les drôles.
...que nous allons parler dans le Zoom Zoom Test. Oui, il était temps de vous démasquer, Manon. Un quiz spécial déclaration bien sexiste, mais qu'on doit donc à des femmes. On commence en France, priorité nationale oblige. Avec cette première citation, Manon Quentin, quel esprit féminin éclairé, et en tout cas parfaitement hermétique au féminisme, a pu dire « Le progrès, c'est de permettre aux femmes de rester à la maison ». Est-ce Christine Boutin? Ségolène Royal?
Non.
Ou Marine Le Pen?
C'est.
Ah.
Christine Boutin.
Ouais.
Un peu dans l'évidence, là, Quentin.
Ouais.
Allez, mon petit Quentin, vous voulez faire mieux. Bonne réponse. Non, mais non, c'était Manon Lassé et notre invitée, effectivement, Aurélia. Marine Le Pen, celle qui arrive en tête pour la présidentielle dans le dernier sondage de la Tribune du dimanche hier, est aussi convaincue que le progrès, c'est de permettre aux femmes de rester à la maison. Une analyse d'une décoiffante modernité, puisqu'elle fait écho à une citation du poète Noël de Faye, qui, au XVIe siècle, écrivit ces mots qui figurent encore encadrés dans l'entrée de la carrière, histoire d'annoncer la couleur aux visiteurs. La maison est à l'envers lorsque la poule chante aussi haut que le coq. Bien envoyé, mon Noël. Wow. Et pour la prochaine citation, et qui n'est pas piquée des hannetons non plus, quoique peut-être un peu plus subtile, je cite « Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. » Nous partons en Angleterre, car il s'agit de Margaret Thatcher. Nous filons en Italie, car il s'agit de Giorgia Meloni. On trace aux States, car il s'agit de Sarah Palin.
Ah, B. Thatcher.
B, moi je dirais Meloni.
Décidément, vous êtes inspiré aujourd'hui, Quentin. Bonne réponse de Manon Mariani. Réponse A, direction l'Angleterre de Margaret Thatcher. Une citation double lame, car si elle loue l'efficacité des femmes, elle les cantonne également à l'exécution des tâches concrètes, les excluant implicitement des rôles de stratège. Mais quittons la perfide Albion pour le Nouveau Monde. Les États-Unis d'Amérique, ce pays continent avec ses canyons, ses skylines et cette vision toute particulière de la place de la femme, en résumé, le pays de l'oncle Sam et pas celui de la tante Ashley. Manon Quentin, qui a pu dire toute honte bue et assez récemment, je mets les désirs de mon mari avant les miens, remplir les besoins de son mari et ce qui bénéficie le plus au mariage. Est-ce Melania Trump, première dame? Michelle Obama, une ex-première dame? Ou Estee Williams, une tradwife comptant des millions d'abonnés?
Ah, c'est.
B.
C'est.
Peut-être plus surprenant?
Plus surprenant, là,
allez,
là
Obama.
Contrairement à la première question, vous êtes tombé dans le panneau de la facilité. Là, vous réagissez, vous rebondissez. Et c'est encore une mauvaise réponse, puisque c'est Manon qui a la bonne réponse. La réponse est, je vous présente Estee Williams. Enfin, je vous présente, je vous la décris. Parce que si je vous montrais une vidéo d'elle, comme elle ressemble à peu près à Marilyn Monroe, mais à 25 ans avec des yeux verts et des robes corsetées, Cyril serait capable de planter femme et enfant pour aller fonder une troisième famille en Virginie. Estee Williams est une des tradwives les plus célèbres de TikTok. Une de ses vidéos les plus vues la montre en train de danser en battant les œufs en neige. Fallait y penser. C'est une vidéo sous laquelle Cyril a laissé ce commentaire laconique, un émoji aubergine. Enfin, revenons en France, notre cher pays qui n'est pas épargné par la crise de la masculinité. Ici aussi, le lent poison de la castration des hommes fait son œuvre, mais peut-être un peu plus lentement qu'ailleurs, car nous avons en France des figures tutélaires, ces grands penseurs dont la lecture nous rappelle sans cesse que l'homme est grand, sauf Pierre Courade. Parmi eux, j'aimerais citer cette réflexion du grand philosophe, également président de la République, président Chirac. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table et ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Voilà Manon, une réflexion frappée au coin du bon sens qui nous change de toutes les fariboles féministes qu'on entend dans cette émission. Alors, Jacques Chirac était un homme, mais qui a dit « Coucher pour réussir, c'est pas grave, si on réussit ». Est-ce Michel Bernier ? Manon vient quand même de dire moi.
Ouais, elle nous a fait un signe.
C'était une blague, évidemment.
Michel Bernier, est-ce Véronique Geneste ou Catherine Deneuve?
B, hop. J'ai dit avant.
Bah, j'ai dit à Bernier, moi. Barnier peut-être.
Michel Barnier. Ah ouais, non, c'est... pas Barnier. Michel Alors... Barnier, lui, en plus, c'est un homme. Il a peut-être couché. C'est vous avez raison, il a peut-être couché pour réussir aussi, on ne le sait pas. Hein.
Non, Michel Barnier.
Michel Barnier. Serait-il possible que Quentin ait au moins une bonne réponse dans ce quiz? Je veux y croire, je croise les doigts, je vérifie. Oui, bonne réponse de Quentin Lui. Ça ne vous sauve pas, hein, néanmoins.
Non, c'est pas.
C'est quand même Manon qui remporte notre quiz.
Je ne suis pas Fanny.
Vous n'êtes pas Fanny. Mais effectivement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette expression. Ça faisait depuis au moins 1963 qu'elle n'avait pas été utilisée en radio. Bravo. Aurélia Blanc, journaliste et co-autrice de la bande dessinée et du Con Office, est toujours avec nous pour déconstruire nos idées sur la masculinité. Alors, Aurélien, il faut qu'on parle des parents, mais j'aimerais une question sur l'école déjà. Est-ce que l'école peut permettre aux garçons de ne pas tomber dans le virilisme? Est-ce que l'école a un rôle à jouer et qu'est-ce qu'elle peut faire?
Oui, l'école, elle a un rôle à jouer. Alors, on lui demande beaucoup de choses à l'école. Donc, c'est vrai que voilà. Mais oui, bien sûr qu'elle a un rôle à jouer. Mais pour ça, il faudrait déjà que tous les enseignants soient formés, peut-être,
aux questions
de genre. Non, en fait, les modules sur l'égalité filles-garçons, c'est apparu en 2022 seulement. Donc, on a un
petit peu
de rattrapage à faire. Et pareil, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, qui sont un très bon espace pour, justement, déconstruire les injonctions sexistes. Ça fait 24 ans maintenant que les élèves sont censés en avoir 3 par an. On sait que c'est pas le cas, et quand il s'agit de les rendre vraiment effectives, on a des levées de boucliers dans la société avec des groupuscules de parents en colère, donc c'est pas évident.
Quentin ?
Il y a une scénette dans votre BD qui parle justement de l'éducation sexuelle. Le personnage explique que les garçons les plus à l'aise avec la sexualité et les plus à l'écoute de leurs partenaires sont ceux dont les parents, y compris les pères, leur ont parlé de sexe. C'est ce que vous avez constaté, il faut parler de sexe avec son
Oui, alors on est rarement très à l'aise pour parler de sexe avec ses enfants, mais leur parler quand même de sexualité, de corps, de consentement. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Donc oui, ça me semble essentiel, parce que de toute façon, si nous on le fait pas, que l'école ne le fait pas, le porno, les potes se chargent de le faire. Donc en fait, c'est bien de leur donner aussi quelques outils un peu concrets pour les armer, parce que pour en revenir sur cette crise de la masculinité, c'est aussi une source de pression et d'inquiétude énorme pour les jeunes garçons, l'entrée en fait dans la sexualité, dans cet univers très stéréotypé.
Vous parlez de nouveaux outils, le gouvernement britannique a décidé de diffuser la série Adolescence en classe. En France, elle sera proposée comme support pédagogique. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est bien? C'est trop tard? C'est un peu gadget? Ou vraiment, c'est vraiment une bonne idée?
Je pense que c'est intéressant s'il y a vraiment des gens formés pour animer la parole autour, parce que s'il s'agit juste de diffuser une série que les ados ont peut-être déjà vue chez eux en guise de solution, c'est un peu court. Il faudrait vraiment que ça s'inscrive dans un travail au long terme, avec des gens formés, enfin vraiment, et en même temps j'ai conscience qu'on peut pas nécessairement demander aux enseignants de prendre ça
Donc
en charge.
Des gens formés, ce serait qui?
Il y a des associations. Par exemple, en Ile-de-France, il y a le CRIPS, on pourrait penser au planning familial, en avant tout, qui intervient dans les écoles. Enfin, il y a des acteurs dont c'est le métier, en fait, qui ont cette expertise et qui vont de collège en lycée à longueur d'année. Donc, ils ont l'habitude, en fait, de faire ça. Mais c'est vrai que ça demande un peu de temps dans les emplois du temps et aussi un peu d'argent. Voilà, et c'est sans doute pour ça que diffuser un film, ça se fait à moindre coût. Et si c'est ça la seule solution, je pense que c'est un premier pas qui n'est pas suffisant du tout.
J'ai l'impression que pour ce qui est de la nouvelle génération, là je ne parle pas de nous, mais des jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une polarisation extrême entre ceux qui, alors ils sont dans l'ère d'après MeToo, entre les jeunes qui vont être très ouverts, naturellement déconstruits, presque si tant est qu'on puisse dire ça, et un espèce de backlash avec ceux qui vont s'orienter vers les incels, les mascus, et on a l'impression que c'est deux jeunesses qui vont plus parler en fait.
Ouais, c'est vrai que cette polarisation-là, on la retrouve dans toutes les études récentes, avec d'un côté des jeunes très déconstruits, en tout cas très à l'aise avec la question de la fluidité de genre, l'orientation sexuelle, l'égalité des genres, et de l'autre côté, peut-être un quart, 30% des jeunes hommes qui, eux, sont vraiment sur des visions masculinistes. Alors, d'une part, on pourrait quand même rappeler que cette polarisation, elle n'est pas que chez les jeunes. En fait, ça reflète ce qui se passe quand même dans l'ensemble de la société. C'est aussi valable chez les adultes. Mais ça nous montre aussi qu'il y a quand même sans doute besoin urgemment d'espace de parole pour les jeunes et les jeunes garçons sur ces questions.
Et sur le rôle des parents, là, pour le coup, est-ce qu'on ne peut pas faire un distinguo entre ceux qui virent mascu et ceux qui sont plus déconstruits? Est-ce qu'il n'y a pas une question de confiance qu'on donne à son enfant? Moi, j'ai l'impression, c'est pas sociologique, c'est juste une analyse personnelle, que il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Quand on devient masculin, c'est qu'on a peur d'être remplacé, je ne sais pas. Donc, si les parents vous donnent plus confiance en vous quand vous êtes petit et jeune, ça peut donner ensuite des gens plus ouverts à la déconstruction.
On peut penser qu'on est un peu mieux prémuni contre l'influence des discours masculinistes quand effectivement on grandit dans une famille qui nous donne sa confiance, nous encourage à être soi-même en fait, voilà, comme on le disait tout à l'heure. C'est sûr que quand on grandit dans un milieu où il est interdit depuis tout petit de se comporter comme une fille ou comme une femmelette, ça crée beaucoup d'insécurité et donc un espèce de réflexe défensif derrière sur ces questions identitaires.
Quentin ?
Vous dites, et ça j'aime bien, vous dites qu'il y a toujours un bénéfice social à se présenter comme un homme déconstruit.
Oui.
Je pense qu'un mec qui arrive en soirée et qui dit bonjour, je suis un homme déconstruit, il faut s'en méfier.
Alors ça dépend dans quelle soirée on va.
Ouais. Si c'est le premier truc qu'il dit en arrivant, si tu veux.
Un livre de Mona Chollet.
Voilà, mais oui, globalement, ça peut aussi être entre guillemets un argument de vente pour certains hommes, pour draguer, pour avoir bénéficié d'une meilleure image d'eux-mêmes et passer pour le mec cool et si déconstruit.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une chanson.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets.
Kid de Eddie De Pretto, sorti en 2017, extrait de son premier album Cure. Dans ce morceau magnifique, le chanteur s'interroge sur les codes de la virilité, les injonctions autour du fait d'être un homme, un vrai. Les paroles sont celles d'un père qui parle à son fils. Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant. Il conclut ses couplets par ces mots. Pour l'écrire, Eddie De Pretto s'est inspiré de sa propre histoire. Quand il était petit, son père voulait qu'il soit un garçon qui joue au ballon. Lui-même étant un chauffeur de poids lourd et un fan de foot, il ne comprenait pas que son fils veuille jouer aux poupées et acheter un album de Laurie. Le chanteur dénonce les dictats de la masculinité et à quel point ça l'a touché pendant son enfance et son adolescence. Comment se construire en tant qu'homme, qui plus est homosexuel, dans une famille et un environnement hétéronormé. Le kid, c'est un garçon qu'on ramène dans le rang. Un garçon à qui on apprend à marcher droit, à parler fort, à aimer les filles, à faire du sport et à surtout ne jamais montrer ses faiblesses. Parce que dans ce modèle-là, la fragilité n'a pas sa place. Dans son clip, Eddie De Pretto se met en scène dans une salle de sport, torse nu, avec une position très masculine, jambes écartées, épaules relevées, attitude fière. Il a été vu plus de 36 millions de fois. Et dans les commentaires, des milliers de personnes remercient le chanteur de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce qu'ils vivent encore. Des mères et des pères disent aussi prendre conscience de l'éducation qu'ils veulent donner à leur enfant. Ce qui est puissant dans cette chanson, c'est qu'elle n'est pas une attaque, c'est un témoignage, et qu'elle dit quelque chose que beaucoup de jeunes hommes ne savent pas encore formuler. Être un homme, ce n'est pas forcément synonyme de virilité, c'est pas forcément synonyme de force, de puissance, de machisme ou de domination, qu'on soit gay, hétéro, trans. Kid a marqué les esprits, résonne encore aujourd'hui dans une société où la masculinité n'a jamais autant été disséquée.
Mais moi, je joue avec les filles, mais moi, je ne prône pas mon chibre, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes problèmes.
Merci Manon, et toujours bien de diffuser le chanteur préféré de Cyril,
il est ravi.
La carrière, qui est plus qu'un. Un chanteur, c'est un ami pour lui. Merci Manon. Aurélien, est-ce que la crise de la masculinité, elle est différente pour les hommes gays?
Est-ce qu'elle est différente pour les hommes gays? Je pense que les hommes gays, ils sont déjà hors d'une partie de ces injonctions, en fait. Alors, ils échappent pas totalement aux injonctions à la virilité, mais du fait d'être non hétérosexuels, ils sont déjà considérés comme non conformes.
On l'a entendu dans le micro-trottoir.
Voilà, exactement. Donc, voilà, ils sont l'homme déconstruit dans le micro-trottoir, c'était l'homme homo, en fait.
Exactement.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
On a beaucoup parlé du rôle de l'éducation, des parents. Comment faire pour qu'un jeune garçon ne grandisse pas dans la haine des femmes? Eh bien déjà, ne l'inscrivez jamais à Notre-Dame de Bétarame. C'est là que Pierre Courade a fait ses études secondaires sous la direction du principal, l'abbé Chibrard. Et la phrase qu'il a le plus recopiée en colle, c'est « Les femmes sont des diablesses habitées par Satan, fuis-les comme la peste et souviens-toi que toutes les souffrances remontent au péché originel de Ève qui a croqué la pomme. Ouais. » Une éducation qui explique largement le rapport complexe de Pierre aux femmes. Bref, pour nous résumer les enjeux de la crise de la masculinité, c'était l'homme de la situation. Pierre, on vous écoute.
Et quand on voit les hommes dans ce studio, on est en droit de parler de vraie crise de la masculinité entre un garçon soja fan de Formule 1, un viandard manucuré et un sosie de Saruman qui porte des tenues dessinées par Vianney. On est loin des boys club des années 80. Pour nous éclairer sur ces nouvelles masculinités, la journaliste Aurélia Blanc, elle nous a expliqué que la crise de la masculinité était un mot valise, assez flou, hein, mais dont chaque définition revient à rejeter la faute sur les femmes, surtout si ces femmes ont des velléités féministes. Cette tendance ne date pas d'hier. Notre invitée nous a rappelé qu'Aristote se plaignait déjà d'une féminisation de la société. Aujourd'hui, ce qui change, c'est la visibilité des hommes qui rejettent les stéréotypes virilistes, Harry Styles ou Pedro Pascal, des rôles modèles qui irritent les masculinistes. Ils craignent que ces hommes ne contaminent le reste de la société. Aurélia Blanc estime qu'il existe une polarisation chez les hommes eux-mêmes, si bien qu'un choix personnel assumé prend aujourd'hui une dimension politique. Difficile pour tout le monde de se déconstruire, c'est plus dur que de se proclamer féministe. L'idée, ce serait donc d'élever ses enfants dans un environnement où les hommes et les femmes sont égaux et dont les places sont interchangeables. C'est peut-être ça l'antidote à cette crise.
Merci beaucoup Pierre Courade. Vous, Marine Leonardi, vous êtes ravie qu'on soulève ce problème de société.
Mais tout à fait Mathieu, parce que nous sommes le 3 novembre, il faut préparer Noël et bien sûr Marie a fini de décongeler. On a à peine laissé les sorcières d'Halloween qu'il faut fourrer la grosse dinde de Noël. C'est ce que dit mon mari hein, quand il a le droit à sa pipe annuelle le 24 au soir. Ah bah s'il y en a un qui a pas de problème avec la masculinité et les blagues de gros beauf, c'est bien lui. Et tonton Gérard, bien entendu, avec sa fameuse trilogie « C'était mieux avant, on ne peut plus rien dire, on n'est plus chez nous ». Sacré GG, dans certaines familles, il s'appelle aussi Cyril Lacarrière. Après, si vous fêtez Noël avec Cyril Lacarrière, vous avez des problèmes autrement plus graves hein, que la misogynie ou le racisme. L'économie s'effondre, le monde est en guerre, la terre brûle. Mais, bien plus grave, on ne peut même plus traiter les gays de PD et les noirs de Mamadou. Et non, Jarry, on ne peut plus. Non, mais c'est vrai que c'était quand même mieux quand les minorités fermaient leur gueule. Maintenant, on est obligé de leur donner la parole sur le service public. Mais bon, une minute, hein, pas plus, n'est-ce pas mon Pierrot, faut pas déconner non plus. Mon oncle m'a même dit, avec le wokisme, bientôt on va avoir honte de dire qu'on est hétéro. Alors, personnellement, j'ai déjà honte. Hein. Quand je dois m'agenouiller après un match de Ligue des Champions, le PSG perd au pénos, Leonardi perd au pénis. Ah non, l'hétérosexualité n'est pas un choix, ça je peux vous l'assurer. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si la masculinité est en crise. La dernière fois, je prenais un verre avec mon collègue homme mieux payé que moi. Oui, Cyril, on se parle entre nous. Il revenait d'une partie de golf et il m'a dit « Tu te rends compte, Marine, mon neveu pense qu'il est une fille. » Du coup, je lui ai acheté un déguisement de la Pat Patrouille. J'étais là « Mais tu as bien fait, Mathieu Noël. Après tout, il vaut mieux que le gamin se prenne pour un chien flic qu'une femme. Hein, ça ouvre plus de portes et c'est pas faux de m'être souvent mise à quatre pattes. Pourtant, les mentalités changent. Rocco Siffredi a déclaré récemment aimer se déguiser en femme, hein, ce qui lui fait maintenant un deuxième point commun avec Pierre Courade. Le premier étant la longueur de leur voyage. Après, on a aussi Thibaut InShape, hein, qui dans les studios de France Inter, il y a une semaine, a dit « Je ne suis pas un mal alpha, j'ai des faiblesses. J'ai pleuré le week-end dernier à l'enterrement de mon grand-père. » Il a dit ça. Et Thibaut aurait même précisé hors antenne « Je ne suis pas raciste, j'ai un pote noir. » Ah non, pardon, on m'indique dans l'oreillette qu'il s'agissait de Nawel Madani. Alors, masculinité en crise, je ne vais plus avoir de pote dans le milieu. Alors, masculinité en crise, on met souvent cela sur le compte des féministes. Hein. On entend beaucoup en ce moment « Ouais, les nouvelles féministes sont folles, je suis féministe, mais je n'aime pas les nouvelles féministes. » Et pourtant, Brigitte, faire passer les femmes pour des folles, ça ne date pas d'hier. La preuve en image avec cette caricature datant de 1910 en Angleterre, je ne sais pas si on la voit bien. Alors, pour nos auditeurs, on y voit une ravissante...
On la voit, d'autant mieux qu'on est en radio, mais effectivement, vous pouvez nous suivre sur franceinter.fr.
Alors qu'Instagram, tu sais.
Évidemment, toujours Insta. Alors, on y voit une ravissante jeune femme de 15 ans qui me ressemble fort, d'ailleurs. Elle a un peu moins de poitrine que moi, et qui finit à ses 50 ans par ressembler à Quentin Lui après une journée de micro-trottoir. Et c'est écrit juste en dessous, si la femme ne se marie pas à 40 ans, à 50 ans, elle deviendra féministe et réclamera le droit de vote. C'est-à-dire, elle deviendra une suffragette. Alors, qui sait, peut-être même qu'un jour, les femmes réclameront un orgasme de temps en temps. Mais pour ça, on prie encore le Père Noël.
Merci beaucoup, Marine Leonardi. Je précise néanmoins que je ne suis pas votre collègue, mais votre producteur. On retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zone. Je rappelle que vous serez à l'Olympia du 10 au 13 décembre 2026. Billetterie pour 2026 et 2027, car vous vous projetez toujours plus loin sur marineleonardi.com. Merci beaucoup Aurélia Blanc de nous avoir permis de mieux cerner cette crise de la masculinité dont on parle beaucoup. Je rappelle votre bande dessinée et du con office coécrit avec Maëline et illustrée par Anjuna Bouton. Boutan, c'est paru aux éditions Marabule. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi.
Zoom Zoom Zen.